Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Ce message vous est proposé par Church Team Ministries International Île-Maurice. Que le Seigneur vous bénisse.
Bonsoir tout le monde. C'est une joie d'être avec vous. On va partager l'Évangile ensemble. Et de savoir que l'Évangile est capable de nous transformer, de nous changer, afin de mieux servir le Seigneur. Je crois que c'est le but, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions servir le Seigneur. Servir le Seigneur avec l'approbation du Seigneur. Parce qu'on peut, faire beaucoup de choses sans avoir l'approbation de Dieu. On peut devenir tellement religieux, mais je crois que ce que nous cherchons, c'est l'approbation du Seigneur dans nos vies. Amen. Donc sans plus tarder, je crois qu'on va ouvrir notre Bible dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, nous allons lire à partir du chapitre 3. Chapitre 3. Nous allons parler ce soir du ministère de la Nouvelle Alliance. Le ministère de la Nouvelle Alliance. Merci au frère Polydore de nous donner l'opportunité de partager l'Évangile avec vous. Et nous croyons qu'il y a des relations que le Seigneur veut construire au sein de l'Église pour que l'Évangile puisse être propagé davantage. Et donc nous sommes heureux de pouvoir être ensemble ce soir. Il est formé le projet pour pouvoir travailler de plus en plus ensemble pour l'avancement de l'Évangile. Donc l'apôtre Paul ici au chapitre 2, au chapitre 3 parle de ce ministère, le ministère de l'Esprit, le ministère de la Nouvelle Alliance. Au verset 6, il dit « Dieu nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une Nouvelle Alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Donc, ce verset, avant d'aller plus loin, nous voyons que l'apôtre Paul fait la différence entre la loi de l'ancienne alliance, l'alliance que Dieu avait faite avec le peuple d'Israël, et quand on arrive à connaître Jésus, Paul parle de cette loi comme la lettre. Parce que c'était des lois, des ordonnances, des principes que le peuple d'Israël avait besoin de suivre et qui n'apportaient rien pour changer la vie du peuple d'Israël. Rien. Au fait, ça emmenait plutôt de la condamnation, car cette loi disait que si on n'accomplissait pas une seule de ces lois, ben on était coupable de toute la loi. Et comme il n'était pas possible pour le peuple d'Israël d'accomplir tout, donc il marchait sous le fardeau de la condamnation. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il dit « la lettre tue », il fait référence à l'ancienne alliance qui portait de la condamnation et n'avait pas le pouvoir et la force d'emmener la vie, c'est-à-dire transformer quelqu'un, le transformer, le séparer de son péché. le délivrer de sa vieille nature, le permettre de marcher dans la victoire, le permettre de communier avec Dieu en chaque instant. Et donc, l'apôtre Paul, il parle de cette ancienne alliance comme la lettre. Il dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. En d'autres mots, donne la vie. L'esprit donne la vie. C'est le ministère de la nouvelle alliance. Et donc, Paul dit, Dieu nous a rendus capables d'être ministres. Ou en d'autres mots, de le servir, de communier avec lui, de travailler pour lui, d'être ministre d'une nouvelle alliance pour tous les chrétiens, pour tous ceux qui sont nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, pour tous ceux qui ont été sauvés, qui ont reçu le pardon de leurs péchés, par la foi en Jésus-Christ. Donc Paul fait la différence entre ces deux alliances, et en même temps nous montrer clairement, en faisant la différence entre les deux ministères. Et si on va plus loin dans cette épître, on va voir que Paul mentionne ce ministère, il parle de cela comme le ministère de la condamnation. Le ministère de la condamnation. Et il dit que si ce ministère a été glorieux, et il fait mention à Moïse, qui descendait de la montagne après avoir rencontré le Seigneur, son visage reflétait la gloire. Il parle de la gloire sur le visage de Moïse. Et en même temps, il lit cela comme le ministère de la condamnation, et il dit, si cette gloire... Si ce ministère a été glorieux, combien est-il plus glorieux aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, c'est le ministère de la justice. Vous voulez lire avec moi? Peut-être que ça va expliquer un peu mieux. Au verset 7, il dit, « Oh, si le ministère de la mort, le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, référence à la loi, d'accord? Gravé avec des lettres sur des pierres. Donc, il fait référence directement à la loi de l'ancienne alliance, le régime de l'ancienne alliance. Si ce ministère de la mort a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Combien le ministère de la Nouvelle Alliance ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire.
Amen.
Ministère de la Nouvelle Alliance et le ministère de l'Ancienne. Le ministère de la condamnation, le ministère de la condamnation comparé au ministère de la justice. D'accord? Le ministère de la mort comparé au ministère de la vie. Parce que la lettre tue, l'esprit donne la vie. D'accord? Donc on ne parle pas d'une vie de vivre tous les jours, on parle de la vie de l'esprit. En d'autres mots, que chaque chrétien peut transporter la vie de Christ et que chaque chrétien peut transmettre la vie de Christ, chaque chrétien peut servir le Seigneur par la vie de Christ qui est transmise de lui aux autres. D'accord? C'est ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est ça. C'est que chacun d'entre nous, nous devenons porteurs. Porteurs de la vie de Christ. Porteurs de l'onction de Dieu. Porteurs de la vie de l'Esprit pour le servir. Donc si un chrétien ne transporte pas la vie de Christ, la vie de l'Esprit, il est inefficace. D'accord? On se retrouvera au ciel, on est d'accord. Ça, il n'y a pas de problème. Mais nous sommes concernés par la vie sur cette terre avant d'être concernés par la vie après la mort. Et nous avons intérêt et nous avons besoin d'avoir le sceau de Dieu sur notre vie. Ou alors l'approbation de Dieu sur notre vie. Et l'approbation de Dieu sur notre vie est manifestée par le fruit du ministère de l'Esprit. C'est-à-dire que si je suis capable, ou nous sommes capables de transmettre la vie de Christ, un parfum de bonne odeur de la connaissance de Christ, nous avons l'approbation de Dieu, nous avons le sceau de Dieu sur notre vie. En d'autres mots, Dieu approuve. Il ne faut pas croire que Dieu approuve la vie de tous les chrétiens. Non, non, là non. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui marchent dans le péché et qui ne prennent pas cas de leur vie. Donc, ce n'est pas possible pour eux de transmettre la vie de l'Esprit. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu n'est pas un mélange de lumière, de ténèbres, de justice, de mort. Dieu n'est pas un mélange. Dieu est lumière et n'est pas ténèbres. D'accord? Donc, on ne peut pas servir le Seigneur dans un mélange de vie. Un jour, on loue le Seigneur, le matin et le soir, on a un autre style de vie. Donc, nous ne sommes pas porteurs de vie. Et Paul est en train de parler du ministère de l'Esprit qui donne la vie. La lettre tue. En d'autres mots, nous ne voulons pas servir le Seigneur d'après des règles, des principes, des méthodes, des obligations, mais nous voulons servir le Seigneur par l'Esprit de Dieu qui habite en nous et qui nous pousse et qui nous conduit et qui nous guide dans une liberté. Amen. Sans que nous soyons obligés. Amen. Parce que tout ce qui mentionne une obligation, c'est le ministère de l'ancienne alliance. C'est la lettre. La lettre tue. L'Esprit donne la vie. Vivifie. D'accord? Donc nous sommes intéressés ce soir à ce que chacun d'entre nous, que nous puissions jouer cet instrument, ou que nous puissions prêcher l'évangile comme je le fais, ou que nous puissions sortir de là, aller témoigner avec quelqu'un dans la rue, ou que nous puissions, dans notre maison, aimer notre femme et aimer notre mari, et nous servir le Seigneur ensemble, qu'importe ce que nous faisons, nous sommes appelés à être porteurs de vie. C'est-à-dire que quelque chose de Dieu soit ressenti dans ma vie et dans votre vie par ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et aussi par ceux qui le connaissent. Donc on peut aussi bien faire beaucoup de choses pour Dieu, pardon, beaucoup de choses pour Dieu, et être mort, et être sec. On peut prêcher l'évangile et être sec. On peut dire tout ce que la Bible dit sans vie. Donc ce n'est pas une question de savoir comment faire. C'est transporter la vie de Christ. Et c'est ça que Paul est en train de parler là. Il parle du ministère de l'Esprit qui est plus glorieux que le ministère de la condamnation. C'est-à-dire le peuple d'Israël, la manière qu'il servait Dieu. La manière que le peuple d'Israël servait Dieu. Il n'y avait pas de vie. Non. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de possibilité de même plaire à Dieu.
Si vous allez lire la Bible, vous allez voir qu'il est écrit partout, partout, dans tous les livres de la Bible. Comment le peuple d'Israël s'est rebellé contre Dieu. Comment il est allé vers les idoles. Hein? Vers les dieux étrangers. Oui? Ils se construisaient des autels. Et le premier commandement, selon la loi de Moïse, disait que tu adoreras un seul Dieu. Un seul. Et il n'était pas capable. Il n'était pas capable. Dans la marche dans le désert, ils ont construit le veau d'or. Ils ont construit des autels partout. Ils ont adoré Baal. Ils sont courbés devant Baal, devant les dieux étrangers. Incapables. Mais la bonne nouvelle pour nous, les chrétiens, aujourd'hui, c'est que nous avons l'habilité, nous sommes capables, par l'Esprit, de plaire à Dieu. Nous sommes capables. Et sous ce rapport, le verset 10, ce qui a été glorieux ne l'a point été. À cause de cette gloire qui lui est supérieure. En d'autres mots, la comparaison est tellement grande qu'un n'existe pas devant la grandeur de l'autre. C'est ça qu'elle dit. On est d'accord que ça dit? On relit? Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été. À cause de la gloire qui lui est supérieure. C'est-à-dire la gloire de la nouvelle alliance. En d'autres mots, ce que nous transportons. En nous. Ce que nous transportons en nous est beaucoup plus glorieux que la gloire sous l'ancienne alliance. Beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'il nous est possible de servir le Seigneur et de lui plaire aujourd'hui. Non pas avec notre force, non pas avec notre connaissance, mais avec la vie du Seigneur, la vie de Christ en nous, le ministère du Saint-Esprit en nous, à travers nous. Et le chrétien a besoin de saisir ces choses. Parce qu'on est tenté à devenir religieux, à être religieux, à se cacher derrière les choses qu'on fait. À se cacher derrière des ministères, en guillemets. Mais nous, nous sommes concernés et nous désirons servir le Seigneur et être efficaces. Et être efficaces. Paul dit, dans le chapitre 2, au verset 14, il dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ ». Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Et qui répand, comment? Dieu a choisi que nous, les chrétiens, nous puissions répandre le parfum de la connaissance de Christ. Par nous, nous les chrétiens, nous, ceux de la nouvelle alliance. Dieu a choisi ainsi. Et nous avons intérêt à nous assurer que nous ne sommes pas servis à le Seigneur en tant que des hommes et des femmes religieux, mais avoir l'assurance que nous transportons la vie de l'Esprit. Que nous sommes capables de faire les autres ressentir la vie de Christ en nous. Ce parfum que l'apôtre Paul parle ici. Et si on continue, il dit, nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Extraordinaire. Nous sommes le parfum de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Donc en d'autres mots, que cette vie de l'Esprit, cette présence de Christ, pour ceux qui sont sauvés et pour ceux qui périssent. Donc ma vie doit transporter le parfum de Christ pour tous. Amen. ceux qui périssent et ceux qui ne périssent et ceux qui sont sauvés. Et Paul parle de ça d'une odeur de vie. Une odeur de vie. Regardez comment il parle. D'aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. D'accord? Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Le chrétien religieux est mort. Il est vide. Il est sec. Il peut parler beaucoup. Petit patin, il peut causer. Mais rien. Ce qui est important pour nous, c'est de nous assurer qu'on transporte la vie, on transmet la vie. On transmet la vie. Ça, c'est le but final. C'est d'être des porteurs de vie. De transporter la vie de Christ. En d'autres mots, être de plus en plus comme lui. Parce que nous grandissons et nous marchons de progrès en progrès, de gloire en gloire. Quelle gloire qu'il parle. Quand Paul dit nous marchons de progrès en progrès et de gloire en gloire, quelle gloire qu'il parle. On vient de la lire. La gloire de la nouvelle alliance. De gloire en gloire. En d'autres mots, plus de vie. Plus les années passent, plus c'est la vie de Christ. Plus c'est le parfum de Christ. Plus c'est la bonne odeur de la connaissance de Christ. Le plus c'est cette odeur de vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'Église, pendant les 15 dernières années, en ce qui me concerne, il y a un manque de vie. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont la difficulté de s'attacher à l'Église. Parce qu'ils ne sont pas nourris de la vie de Christ. Ils ne goûtent pas, ils ne ressentent pas, ils ne reçoivent pas. L'apôtre Paul dit « Quand la mort agit en moi, la vie agit en vous. » En d'autres mots, la mort qui agit en lui produit la vie de Christ en lui pour transmettre aux autres. Amen. Quand la mort agit en moi, la vie agit en vous. Donc le but final, c'est quoi? La vie de Christ. C'est ça le but final. Et Paul avait bien compris cela. Il était bien concerné de cela. Il avait compris le plan de Dieu. Il avait compris pourquoi. Quel est le but de notre salut sur la terre ici-bas. Ce que nous parvenions tous à l'image de Christ. Oui. Et Paul était prêt à tout pour que les chrétiens parviennent à l'image de Christ. Il était prêt à tout. Il était prêt à souffrir. Il était prêt à perdre sa vie. Il était prêt à tout pour voir les chrétiens grandir et être porteurs de vie. Pourquoi la maturité spirituelle ne dépend pas de la quantité d'années que nous sommes assis à l'église? Ou la quantité de chants qu'on connaît? Ou la manière qu'on parle en langue. La maturité spirituelle ne dépend pas de ces choses. C'est la vie de Christ. En nous. À travers nous. Et la raison pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à persévérer et continuer à marcher avec le Seigneur, c'est parce que beaucoup d'entre eux ne sont pas nourris comme il le faut. Oui. Nous avons été sauvés par le Seigneur afin de recevoir l'Évangile pour nous transformer et nous changer et nous emmener à être des ministres de la Nouvelle Alliance. À des porteurs de vie. C'est pourquoi le Seigneur regarde au cœur de l'homme. Il n'est pas intéressé avec l'extérieur de l'homme. Il regarde l'intérieur. L'extérieur est trompeur. Vous le savez, je crois. L'extérieur est trompeur. Le Seigneur regarde au cœur de l'homme. C'est pourquoi la vie de Christ, elle est transportée dans notre cœur. C'est de notre cœur, pas de notre intelligence ni de notre tête. C'est pourquoi la vie de Christ n'a rien à voir avec notre connaissance. C'est bien d'avoir de la connaissance biblique, mais ce n'est pas la connaissance qui nous emmène à être porteurs de la vie. Il y a un autre chemin. Il y a une autre route. Mais n'oubliez jamais que le but final, c'est la vie. Le Seigneur nous emmène sur un chemin et il sait pourquoi il nous emmène sur ce chemin. Parce qu'il a un but. Un but. C'est que nous soyons porteurs de vie. De sa vie. De sa vie. Sa vie en nous. Comme Paul dit. C'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et combien de chrétiens peuvent répéter ce que Paul vient de dire? Combien de chrétiens peuvent répéter, ce n'est plus moi qui vis? C'est pas moi. C'est Christ qui vit en moi. Donc, il y a la disparition d'une nature, il y a la disparition du vieil homme et l'apparition de l'homme nouveau, créé à l'image de Christ. Donc, il faut qu'il y ait un qui meure. On suit? Il faut qu'il y ait un qui meure, qui disparaît pour que l'autre vive. Et plus que le vieil homme disparaît, et meurt, de plus, la vie de Christ va se manifester. L'homme nouveau, c'est Christ. Parce que Paul dit, l'homme nouveau, créé à l'image de Christ. Créé à l'image de Christ. D'accord ? Donc, c'est pas dans un livre, c'est dans le cœur.
Amen.
C'est pas dans le livre. C'est bien de le lire. C'est une belle chose de le lire. C'est bien de découvrir certaines choses. Mais la question n'est pas de découvrir la chose. La question, c'est de transporter la chose.
Amen.
Parce que c'est ça qui fait notre valeur. Parce que l'homme naturel, le vieil homme, n'a aucune valeur. Au fait, il est moins quelque chose. Il nous met à découvert. En banque. Mais l'homme nouveau, c'est là où est toute la valeur. La valeur d'un homme, la valeur d'une femme, créée à l'image de Christ. Ça me fait rire, moi, d'entendre souvent, enfin, ça me fait rire, c'est plutôt triste, d'entendre souvent les gens dire que nous avons été créés à l'image de Christ. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Adam a été créé à l'image de Dieu. Adam a été créé à l'image de Dieu. Mais quand Adam a décidé de désobéir à Dieu et de se tourner son dos vers Dieu, il a tout perdu. Il a tout perdu de Dieu. Tout. Et tous les hommes sont héritiers de ce même Adam. Par la nature du péché qu'on finit par découvrir à l'âge de 6 ans, 7 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, dépendant des gens. C'est pourquoi quand les enfants naissent, ils sont tout beaux. Absolument. Ils rient, ils font notre joie. Mais quand ils arrivent à avoir 3 ans, 4 ans, ils commencent à se rebeller. C'est la nature de l'homme, cette nature de péché qui se réveille en lui. Et ne me dites pas que nous sommes nés à l'image de Dieu dans cette nature de péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand nous sommes nés de nouveau et que l'Esprit de Dieu nous recrée à l'image de Christ, ça c'est une autre chose. Là, on est d'accord. Mais d'entendre n'importe qui me raconter qu'il est né à l'image et créé comme Dieu, né à l'image de Dieu, l'homme, ça fait. Non, c'est pas possible. Dieu n'est pas un mélange de péché, d'un mélange de nature de péché, de la nature divine, c'est pas possible. Dieu est Dieu, Dieu est lumière, Dieu est dans sa gloire. C'est pas possible. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu a envoyé Jésus-Christ afin que nous puissions être recréés. C'est pourquoi il nous parle que le sang de Jésus-Christ nous rachète. Amen. Nous a rachetés. Dieu nous a perdus, mais il nous rachète.
Amen.
Il envoie Jésus, son fils, en tant que sacrifice, comme un agneau, mourir sur la croix pour nous et verser son sang pour nous racheter de nos péchés. Pourquoi ? Afin que nous puissions maintenant devenir la créature de Dieu.
Amen.
Être porteur de sa vie. Alléluia.
Amen.
Hein? Alors on peut dire maintenant nous sommes à l'image de Dieu.
Amen.
Ah oui, là on est d'accord. À l'image de Dieu. C'est pourquoi il veut nous délivrer de notre péché. C'est pourquoi il veut nous libérer de notre péché de plus en plus. C'est pourquoi nous ne pouvons pas vivre de qualité de vie. Combien d'entre vous savent que la Bible est pour tout le monde? Et non seulement elle est pour tout le monde qui ont connu Jésus-Christ, mais pour tous les temps. Il y a des gens qui vous disent que de vivre au temps de nos grands-parents, c'était absolument plus facile. Donc la Bible était plus facile d'essayer de l'obéir. Alors, ça peut être vrai. Parce que le péché se multiplie. L'iniquité s'accrue dans le monde. Le péché devient de plus en plus fort. On est d'accord? Mais la Bible reste la même. Pourquoi? Qu'importe la force du péché, qu'importe l'envergure du péché, qu'en 2015, l'iniquité sera encore plus accrue et le péché sera encore plus fort, l'influence du péché sera encore plus forte, mais la réalité demeure que si quelqu'un qui est né en Christ, qui est né de nouveau par l'Esprit de Dieu, veut décider de prendre sa croix et de suivre le Seigneur Jésus-Christ, il aura la même victoire que celui qui a vécu il y a 50 ans, que celui qui vivra dans 10 ans. La même victoire. C'est pourquoi on ne peut pas venir se cacher derrière notre péché en l'an 2008. On ne peut pas. On ne peut pas venir nous cacher derrière notre péché et de vivre une chrétienté mélangée. Combien d'entre vous savent que la chrétienté, c'est pour les riches et les pauvres, les blancs et les pauvres, les blancs et les noirs, et les gris et les marrons et les oranges? C'est la même Bible pour tout le monde. D'accord? Il y a une seule justice. Enfin, il y a plusieurs justices. Mais il y a une seule justice de Dieu. Dieu ne change pas selon les couleurs. Il ne change pas selon la monnaie. Il est le même. Il est le même Dieu de justice. Mais l'homme, lui, il fait sa propre justice. C'est-à-dire, il lit la Bible. Prend la Bible, il dit, ah ouais, ça c'est possible pour moi. Ouais, depuis là jusqu'à là, on est d'accord. Mais ce morceau-là, non. Ça c'est non. Non, Dieu me comprendra pour ce morceau-là. On reprend ici, on commence, ouais, ça c'est bon. On se fait sa propre justice. Selon l'homme. Selon ce que nous sommes prêts à, allons dire, investir dans le royaume de Dieu. Selon la quantité qu'on est prêt à donner sa vie. Dans la mesure, un petit dictionnaire à droite. C'est super. On comprend ce que je dis? Hein? Donc ça dépend de la mesure dans laquelle je veux donner ma vie et je fais la Bible maintenant s'accorder avec ma vie. C'est grave d'être comme ça. Hein? C'est grave d'être comme ça. Mais quand on entend le vrai évangile dans notre cœur,
On ne peut pas continuer à avoir notre propre justice et de faire notre propre standard de la vie chrétienne. Si la vie est dure, ben, Dieu comprend. Si je vis en Europe, ben, certains textes sont OK. Mais si je vis en Afrique, ces textes-là ne sont plus valables. Vous comprenez ce que je veux dire? On fait notre Bible à nous. Dans la mesure, combien on veut donner notre vie? Combien est-ce qu'on est prêt à perdre cette vie? C'est pourquoi on voit toutes sortes de qualités de chrétiens aujourd'hui. Ils sont de toute qualité, de tout standard. Mais il y en a un seul dedans. Et le standard, c'est le ministère de l'Esprit. C'est que nous puissions transmettre la vie de Christ. Transmettre l'onction de Dieu. Transmettre le parfum, la bonne odeur de la connaissance de Christ. On est d'accord? C'est pourquoi nous sommes tous appelés ici au même ministère. Oui. En dehors des ministères de prophètes, d'apôtres, d'évangélistes, de pasteurs, etc., 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 c'est une autre histoire. Mais le ministère de l'Esprit, c'est pour tous. C'est pour tous. Que tu nettoies le carreau. Oui. Que tu joues à ce drôle d'instrument. Oui. Que tu fasses n'importe quoi. Il faut que tu sois porteur de vie. C'est dommage qu'on n'achète pas cette vie. Ça aurait été plus facile. Mais on n'achète pas. On ne peut pas l'acheter. On ne peut pas l'acheter. Ça ne se gagne pas par la quantité de jours que je viens à l'église. On ne s'approprie pas de cette vie parce qu'on s'assied au premier rang. Je n'ai rien contre tous ces gars-là. Hein. Et c'est vrai. On n'est pas plus spirituel et plus porteur de vie parce qu'on fait certaines choses et que d'autres ne le font pas. On est porteur de vie dans la mesure où on est prêt à perdre la nôtre. Il faut perdre la nôtre pour découvrir une autre vie qui est celle de Christ. Elle n'est pas automatique. Elle ne se gagne pas par moyen de prière. La prière aide. Nous aide. Elle ne se gagne pas par la quantité de chapitres que nous lisons par jour. Elle se gagne dans la mesure où on est prêt à perdre notre vie. C'est dommage qu'elle ne s'acquiert pas par le nombre d'heures de prière, ou le nombre de chapitres qu'on lit, ou la quantité de fois qu'on fait à l'église, ou le nombre de chants chrétiens qu'on connaît, ou combien d'heures de louanges qu'on écoute par jour. C'est dommage. Parce que peut-être que nous serions tous gagnés. Mais non. Ça s'acquiert par un autre moyen. On perd une pour gagner l'autre. Oui. On perd une pour gagner l'eau. C'est pourquoi le message de la croix est incontournable dans la vie chrétienne. Incontournable. Le message de la croix est incontournable. Et celui qui pense qu'on ne peut pas prêcher la croix de Jésus-Christ tout le temps, et celui qui n'est pas prêt à perdre sa vie. Parce que le message de la croix de Jésus-Christ est le seul moyen pour nous de nous conduire, de nous emmener à la conviction
que c'est le seul chemin à prendre. Que c'est le seul plan de Dieu pour notre vie. Que c'est la vision que nous devons avoir de notre vie. Qu'elle soit dans la famille, qu'elle soit toute seule si on n'est pas marié, qu'elle soit qu'importe quoi. Mais on ne peut pas nous dissocier du message de la croix. Ce n'est pas possible. Parce que si nous ne le faisons, nous allons demeurer dans un autre ministère qui n'est pas celui de l'esprit. Oui ? Qui n'est pas celui de l'esprit. Si nous avons le désir de servir le Seigneur avec efficacité, mes frères et sœurs, nous devons être prêts. Prêts. À laisser le Seigneur faire l'œuvre qu'il a besoin de faire en nous. Pour nous libérer de nos liens. Afin qu'il n'y ait plus de vie de l'esprit. Moi, je vous dis dans les derniers jours. Dernier jour. Je crois que si vous êtes chrétien aujourd'hui, né de nouveau, vous comprenez quand on parle de dernier jour. Hein? Avant le retour de Jésus. Le Seigneur est à la recherche des chrétiens. Pas des grands connaisseurs, mais des hommes et des femmes qui sont prêts pour encore quelques années permettre au Seigneur de faire une œuvre profonde dans nos vies. Donc il faut oublier le temps où n'importe qui peut faire n'importe quoi pour le royaume de Dieu parce qu'il veut. Il n'y aura pas de fruit. Parce que dans les derniers jours, Dieu est à la recherche de ceux qui vont transporter sa vie. Qui ne vont pas être des hommes et des femmes secs. Secs. Morts. Sans vie. Ce n'est pas des grands prédicateurs que Dieu est à la recherche. Ce n'est pas des raconteurs d'histoires. Ce n'est pas des gens avec beaucoup de charisme. Des gens simples. Simples, mais qui sont prêts à se charger de leur croix et de suivre Jésus-Christ. Ils sont prêts de mourir à eux-mêmes et permettre au Seigneur de vivre en eux. C'est ça le ministère de l'Esprit. C'est ça la vie qui doit émaner de nous. Ce parfum de bonne odeur, de la connaissance de Christ. Donc, en d'autres mots, c'est pas un mélange. C'est pas de mélange. C'est pur. D'accord? C'est pur. On ne peut pas s'asseoir dans l'église et se permettre de vivre une vie dégradée. Une vie dans le péché. Une vie cachée. Vous savez ce que je découvre, moi? Je découvre que plus les chrétiens sont libérés de leurs péchés, plus il y a de la vie dans l'Église. Plus il y a de la vie dans l'Église. Quand on rentre dans l'Église, on ressent une vie. On ressent la présence du Seigneur. C'est pourquoi on ne peut pas vivre deux vies. Une le dimanche matin, on met nos ailes, comme des anges, on vient, on chante avec nos belles voix, fantastiques, on joue une musique parfaite, enfin, n'importe quoi d'autre qu'on puisse faire en église, mais ce n'est pas ça qui compte. Il n'y a pas 10 qualités de vie pour 10 chrétiens différents. Il y a une seule. Une seule. Et quand je lis l'apôtre Paul dans les Épîtres, je peux voir que c'était un homme qui n'était pas prêt à compromettre l'Évangile parce que les chrétiens ne voulaient pas vivre la réalité de l'Évangile. Ouais. Il n'était pas prêt. Vous savez ce que Paul dit concernant le péché en Église? Il dit, ôtez le levain au milieu de vous, parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Ôtez le levain au milieu de vous. On sait très bien ce que ça représente, le levain. C'est le péché dans l'Église. On ne peut pas vivre notre vie et venir chanter le Seigneur le dimanche matin. Il faut se repentir. C'est pourquoi le message de la croix est nécessaire. Pour emmener nos deux genoux à terre et nous convaincre de péché afin de permettre au Seigneur de nous libérer. Oui. Paul est dur, quelquefois, quand il parle même aux Corinthiens. C'est pas quelque chose qu'on fait n'importe comment. Mais l'apôtre Paul a livré à Satan cet homme qui avait commis l'inceste dans l'Église. C'est sérieux, hein? Mais quand on n'entend pas l'Évangile de la croix, chacun vit sa propre vie. Et il a les bonnes raisons pour se justifier de sa propre vie. Et comment peut-il espérer maintenant transporter la vie de Christ? Il y a une seule chose qu'il puisse faire bien, c'est de se repentir. Tout ce qu'il fera à côté sera sans vie. Il n'aura pas l'approbation de Dieu, le sceau de Dieu sur sa vie. Il peut parler de Dieu, il peut parler de Christ, il peut confesser la parole de Dieu, il peut faire beaucoup de choses. Il n'a pas l'approbation de Dieu. Il n'aura pas l'approbation de Dieu. C'est pourquoi nous avons intérêt à mettre nos vies en ordre, à nous humilier, à permettre au Seigneur, par sa grâce, de nous libérer. C'est pourquoi il y a un seul évangile pour tous. Il n'y a pas un évangile différent pour moi et un évangile différent pour vous. Ou pour X ou Y ou Z. Il y a un seul évangile pour tout le monde. Et je veux vous encourager à comprendre ce soir que c'est possible de vivre l'évangile comme il a été écrit. C'est possible. Mais par l'Esprit. Pas dans notre force, pas dans nos esprits religieux, pas par les techniques, des méthodes, mais par l'Esprit. Ça, c'est possible. Que le Seigneur nous libère de plus en plus de notre esclavage. Et on ne peut pas être satisfait de vivre une double vie. C'est pourquoi, à un moment donné, les chrétiens quittent l'Église. Parce qu'ils vivent une double vie, à un moment donné, le péché prennent leur vie complètement. Et ils n'ont plus aucun intérêt d'aller à l'église. Ils n'ont plus aucun intérêt. Donc ils repartent dans le monde. C'est pourquoi l'évangile a besoin de retourner au sein de l'église de Jésus-Christ. Afin que les chrétiens ne soient pas perdus, mais qu'ils retrouvent la vie de l'esprit. Qu'ils retrouvent le ministère de l'esprit. Il faut qu'on comprenne, mes frères et sœurs, qu'on peut faire beaucoup de choses pour le Seigneur. Beaucoup de choses on peut faire. Mais ça peut être en vain. Ça peut être en vain. Pour rien. Le Seigneur est en train d'établir son Église. Construire son Église. Préparer son Église. Chercher des hommes et des femmes qui sont prêts à vivre l'Évangile et défendre l'Évangile. Et défendre l'Évangile, s'opposer à ceux qui veulent mélanger, diluer. Si on vivait au temps de Jésus, si on vivait au temps de l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu? Il y a beaucoup de choses que je suis sûr que le Seigneur n'aurait pas permis dans les églises aujourd'hui. serait peut-être venu avec son fouet, les vendeurs de pigeons, les échangeurs de monnaie, le business dans l'Église, chercher un poste, chercher un ministère, chercher une approbation de l'homme. Non. Mes frères et sœurs, je veux vous encourager à comprendre que servir le Seigneur, ce n'est pas une question de temps. C'est la vie de Christ en nous. Sa vie. Et je le répète pour terminer, ça ne s'achète pas. On ne l'échange pas par nos heures de prière, ni nos chapitres de la Bible, quoique toutes ces choses sont bonnes, nécessaires dans la vie du chrétien. Mais la vie de Christ, il y a un chemin à prendre. Il y a un chemin à prendre. Il y a une vie à perdre. Il y a une œuvre à s'accomplir en nous. Il y a un brisement que Dieu veut emmener.
Amen.
Vous savez, quand vous rentrez dans le royaume de Dieu, vous êtes un chrétien. Il y a tellement de choses que vous transportez en vous. Il y a tellement de manières de voir. Il y a tellement de raisonnements différents. Chacun avec sa vie. Chacun qui revient dans le royaume de Dieu avec ses problèmes, ses tracas, ses situations, etc. Vous connaissez ça? Moi, je me souviens quand je suis venu rentrer dans le royaume de Dieu, naître de nouveau, oh, ma vie était dans tellement désordre, que ce soit ma famille, que ce soit tellement de choses. Et on vient avec tout ça. C'est pourquoi le Seigneur a besoin de faire son œuvre en nous pour que nous puissions comprendre les choses, voir les choses à sa manière. Comprendre son plan. Parce que quand on vient dans le royaume de Dieu comme ça, on a tous nos plans avec nous. Vous connaissez l'histoire de Paul. Saul. Sur le chemin de Damas, il avait un plan. Quels étaient ses plans? D'aller livrer les chrétiens. Pour être tué. Martyrisé. C'est ça son plan. Il arrive dans le royaume de Dieu. Sur le chemin de Damas, il y a une lumière qui s'apparaît à lui. Jésus se révèle à lui. Pendant 3 jours, il est aveugle. Il ne voit rien. Il retrouve la vue. Jésus se révèle à lui. Il rentre dans le royaume de Dieu. Avec tous ses plans. Mais il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être redressées dedans. C'est vrai? On fait ses plans, on fait toutes sortes de choses. Mais mes frères et sœurs, ce sont ces mêmes choses-là que le Seigneur a besoin de travailler en nous pour que nous puissions connaître son plan. Et tant qu'il n'œuvre pas en nous, on n'arrivera pas à connaître ces plans-là. Parce que la raison va primer sur le plan de Dieu. C'est pourquoi on a besoin d'être brisé, changer à l'intérieur de nous pour comprendre le plan de Dieu, afin que notre cœur puisse se soumettre au plan de Dieu. Parce que ce cœur, cette vieille nature s'oppose au plan de Dieu. Mais c'est quand cette vieille nature est travaillée par Dieu pour que l'homme nouveau paraisse, c'est là où on va comprendre son plan. Et souvent, on réalise, comme le prophète Ésaïe a dit, de la part de l'Éternel, mes plans ne sont pas vos plans, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et on arrive à découvrir que les plans de Dieu ne sont pas pareils comme nos plans. Vous avez déjà découvert ça, vous? Les plans de Dieu ne sont pas nos plans, nos pensées ne sont pas ses pensées. Il faut un cœur transformé pour accepter ça. Il faut un cœur brisé pour accepter ça. Autrement, on ne l'acceptera jamais. Tant que notre cœur ne va pas se soumettre et que le Seigneur puisse changer ce Michel Hardy et que toute son hypocrisie, son orgueil et tout ce qui emmène cette vieille nature qui l'emmène dans le royaume de Dieu là. Vous croyez qu'avant le royaume de Dieu, le Seigneur enlève tout? Il vous pardonne de vos péchés, ça on est bien d'accord. Mais vous rentrez dans le royaume de Dieu avec tout votre orgueil et votre hypocrisie et vos plans et vos idées et vos pensées et tout ce que vous avez fait comme vision de la vie. Ouais, et tant que votre cœur ne résiste à ce que Dieu veut faire, vous allez vous tenir sur les mêmes plans et les mêmes pensées. Mais quand vous prenez le chemin de la croix et que votre vie ne vous appartient plus et que le Seigneur fait une œuvre profonde dans votre cœur et que vous l'acceptiez, parce que vous pouvez s'opposer. Ah ben oui, vous pouvez vous opposer à une œuvre de Dieu dans votre vie. Hein? Vous décidez de tenir votre vie entre vos mains, hein? Et de prendre la chrétienté, d'attacher la chrétienté à une partie derrière vous que vous traînez. Non, la chrétienté, elle prend votre vie. C'est pourquoi quand notre cœur est changé et maîtrisé par le Seigneur, cette vieille nature commence à disparaître et ce vieil homme commence à prendre racine en nous et puis on va comprendre le plan de Dieu. On me dit, Seigneur, j'étais aveugle. Je croyais que c'était super là où j'allais là. Mais non. Il n'y a rien de bon dans ces plans-là. C'est vrai. Il faut accepter ça. Faut accepter. Autrement, on va rester chrétien. C'est comme ces cerfs-volants qui ont cassé la ficelle là, qui partent un peu comme ils partent. Ça prend pas le vent, ça parle. Je jouais au cerf-volant avant. Je me souviens, j'avais une petite colline là, à Kepiprod, là où j'habitais. Que si on veut être efficace dans le royaume de Dieu, on a besoin de prendre un chemin. Il faut arrêter, moi je vous dis, écoutez-moi, il faut arrêter de concevoir la chrétienté comme toutes les prédications que vous avez pu entendre par des livres, des cassettes, des CD depuis les 15 dernières années, qui vous ont dit une seule chose, il y a une seule chose qui est bonne pour vous, c'est aller prospérer. Parce que ça ne demande rien, ça. Ça ne demande rien, ça. C'est mettre 2 euros dans l'offrande et de croire que ça va multiplier par 100 pendant la nuit. C'est vrai ou non? Pas trop vrai pour certains, mais c'est pas grave. Si ça passe en travers, ça finira par descendre. C'est vrai. Moi, je vous dis, c'est vrai. Le ministère de l'Esprit, c'est ça. C'est ça. Et tant que c'est moi qui vais vivre, tant que c'est vous-même qui allez vivre, il n'y a pas de ministère de l'Esprit. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et gloire à Dieu, je termine en disant ceci, que le ministère de l'Esprit sera reconnu. On les verra, on les ressentira. Notre cœur va témoigner de leur réalité. Et aussi bien, notre cœur va aussi témoigner du ministère mort, du ministère parlant, de belles paroles, mais ça ne change personne. Ça ne change personne. Au fait, ça complique beaucoup de choses. Moi, je veux vous encourager ce soir à comprendre que nous sommes tous appelés à vivre le ministère de l'Esprit. On est d'accord? Vous êtes en colère ou non? Vous n'êtes pas en colère? C'est dommage. Vous n'êtes pas en colère? D'habitude, je vais à certains qui sont en colère. Vous n'êtes pas en colère, c'est super. On peut louer le Seigneur ensemble, alors. Hein? On est dans la paix? Si vous êtes en colère, il faut vous repentir. Alléluia, le Seigneur est bon. Allez, on se met debout. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Il est merveilleux.
Nous avons tellement besoin, mes frères et sœurs, d'une œuvre de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de céder. Céder le contrôle. Céder. Comment ça veut dire? Céder le contrôle. Et ça, c'est dur. C'est dur. Parce que pendant longtemps, on a contrôlé notre propre vie, décidé, mais arrivé au point où on dit, Seigneur, je réalise que je n'ai pas l'habilité de continuer à prendre ma vie entre mes mains. J'ai besoin de céder. Démissionner comme le Seigneur de ma vie, le maître de ma propre vie, et remettre tout entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et lui dire, Seigneur, désormais, c'est toi le chef. C'est toi le Seigneur. C'est toi le maître de ma vie. Fais ce que tu veux. Amen. Est-ce qu'on est prêt à accepter cela ce soir? Est-ce qu'on est prêt à accepter de céder? Par la foi. En faisant confiance au Seigneur. Qu'il peut gérer notre vie, nous conduire mieux que nous-mêmes. Mieux que nous. C'est pourquoi on a besoin de faire un pas de foi. Un pas de foi. Un acte de foi. Comme Pierre. Comme Pierre, les disciples étaient dans le bateau et que Jésus passait, ils croyaient que c'était un fantôme. Jésus a dit, écoutez, calmez-vous les gars, c'est moi. Ne paniquez pas. Jésus a dit à Pierre, viens. Pierre a dit, si tu veux, si tu me dis de venir, je viens. Et Pierre a commencé à marcher sur l'eau, extraordinaire. Extraordinaire. Il a commencé à marcher sur l'eau, et puis à un moment donné, il a commencé à couler. Mais le Seigneur a honoré ce pas de foi. Le Seigneur a honoré ce pas de foi. Parce que chaque pas de foi emmène quelque part un changement, une secousse. Mais le Seigneur, il honore. Il honore. Et il vient, il nous prend par la main, il nous dit, comment tu as pu douter ainsi? Allez, viens. Un pas de foi. Une confiance dans le Seigneur. Qui vient de commencer une œuvre ou qui a commencé déjà une œuvre ou qui est en train de faire une œuvre et qui nous demande encore un pas de foi. C'est la vie chrétienne. Encore un pas de foi. Encore un pas de foi. Et quelquefois, je dirais même souvent, un pas de foi déclenche une série de miracles.
Amen.
Un pas de foi, une décision de remettre ça entre le Seigneur, de céder, une décision de faire confiance au Seigneur déclenche un miracle, deux miracles, trois miracles, quatre miracles, cinq miracles. Et si on reste sur notre position, on ferme toute la porte. Toute la porte est fermée. Le Seigneur ne peut rien faire. Rien. La Bible nous dit que le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunérateur. Il va nous récompenser. Ce soir, écoutez-moi, mes frères et sœurs. Écoutez-moi. Une dernière minute. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas avoir peur de céder, de remettre sa vie. Et de faire confiance à Jésus-Christ. Un seul pas de foi dans votre cœur ce soir. Un seul pas de foi d'accepter ce que le Seigneur veut faire. Un seul pas de foi est une porte ouverte pour tellement de grandes choses.
Merci d'avoir écouté ce message. Nous espérons que vous avez été encouragés. Si vous souhaitez nous contacter, veuillez écrire à l'adresse suivante. CTMI, boîte postale 259, Curepipe, Île-Maurice. notre adresse email info@reseauctmi.org ou encore sur notre site internet reseauctmi.org. Que la grâce de Dieu continue à vous fortifier et que Dieu vous bénisse.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.